Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio RDL, RDL Colmar. Et ce matin, avec Christine, nous avons un coup de théâtre très spécial de la Comédie de Colmar. Coup de théâtre où nous recevons les deux directrices et directeurs qui, jusqu'à présent, nous ont donné tout le matériel qui a fait l'ensemble de nos émissions depuis plus de 6 ans.
Oui, depuis 2019, puisque c'est effectivement la première saison. Et c'est vraiment incroyable parce qu'on a l'impression que c'était hier. Et c'est un peu émouvant, effectivement, de vous retrouver aujourd'hui, Mathieu Cruciani et Émilie Caplier, parce que on sait que c'est votre fin de mandat à Colmar, puisque vous allez partir à Toulouse, mais vous allez encore rester avec nous un petit peu, déjà pendant l'émission, et encore jusqu'à la fin de la saison, et même encore la saison prochaine, puisque c'est vous qui avez programmé la saison qui vient.
Voilà, donc ce qui s'est appelé un peu un moment d'adieu, en tout cas par rapport à la radio. La radio qui vous accompagnait, vous aussi, et merci de ce lien que nous avons pu avoir pendant toutes ces années. Et donc, Émilie, Mathieu, voilà, ce matin, pour vous et pour RDL, nous allons parler de ce que vous avez fait, qui est déjà une œuvre, mais en théâtre, ça va vite. Et puis, vous allez partir pour d'autres endroits, d'autres projets, d'autres cieux aussi, peut-être un peu plus clément qu'à Colmar, quoique. Et donc, voilà, c'est parti.
Alors, est-ce que vraiment, là, au moment où vous allez partir, qu'est-ce que vous ressentez d'abord, peut-être, nous dire un petit peu, après toutes ces années, après ces formidables programmations, après vos propres créations, quel est votre sentiment, en fait? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vraiment accompli ce pour quoi vous aviez été nommé? Est-ce que vous êtes assez satisfait par rapport à ce que vous aviez annoncé, par exemple?
Bonjour à tous les deux. Merci. Effectivement, on est très très heureux et c'est effectivement assez émouvant de se retrouver ici et de pouvoir parler un petit peu avec vous de tout ce qu'on a fait. En tout cas, ça a été effectivement des années qui ont été très enrichissantes pour nous à plein d'endroits, nourries de rencontres, de joie, de fêtes parfois, et puis aussi de choses qui ont été très exigeantes, comme le contexte par exemple dans lequel on est arrivé, puisque nous on est arrivé en 2019, donc c'est vrai que c'était une période qui était assez troublée à l'époque, mais qui nous a pas empêché d'inventer, de faire, d'imaginer. C'était effectivement pour nous important en arrivant de se présenter, puisque c'est vrai que voilà, on travaille ensemble et c'est un binôme qui aura effectivement dirigé cette maison et qui a pu investir plein d'endroits du projet, et puis aussi de réussir effectivement à mettre en œuvre les projets qu'on avait. Alors on en a effectivement fait un certain nombre, et puis j'imagine qu'on va peut-être aussi revenir dessus, mais ça aura été des années qui ont été d'une grande force, d'une grande puissance et vraiment une grande source d'épanouissement.
Vous êtes parti fort parce qu'il y avait le théâtre, mais il y avait plus que le théâtre, il y avait d'emblée le cinéma avec un spectacle qui était vraiment profondément lié au cinéma, Piscine. Et on termine aussi avec pas mal de cinéma, même cette année, il y a eu Les Comédiennes, il y a eu...
L'histoire du cinéma.
L'histoire du cinéma, l'Italie aussi, sans doute pas mal en relation avec ton propre intérêt, Mathieu, qui était cette Italie qui était présente de plusieurs manières. Et sur ce rapport entre la musique, le cinéma et le théâtre, comment vous le ressentez maintenant? Parce que c'est aussi pour vous la première fois où vous avez pu, sur plusieurs années, aménager ainsi un projet autour de ça. Et nous, ça nous a énormément intéressé, énormément plu, parce que le théâtre, c'est jamais que le théâtre, c'est pas que le théâtre, c'est l'ensemble des arts. Et cette ouverture a été
c'était vraiment
un moment vraiment formidable.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui était totalement neuf, et je me rappelle de votre carte blanche, déjà dans Rapport sur moi, qui était vraiment la première fois qu'on voyait votre travail, et puis on voyait Émilie au plateau, et puis c'était la rencontre avec Pierre Maillet, hein, qui va venir très très régulièrement et qui devient vraiment une figure quasi colmarienne. Puis moi, je découvrais le texte aussi de Grégoire Bouillet. Donc vous avez aussi, en fait, il y avait en parallèle ce que dit Francis, ce nouveau théâtre qui n'était pas du tout familier à Colmar, en fait, en tout cas pas dans le mandat précédent, de ce mélange musique théâtre cinéma.
Il y avait bien un mélange musique théâtre d'une certaine façon, parce qu'il y avait les Jeunes Voix du Rhin.
Oui.
Bien sûr, mais c'est autre chose, je trouve, parce que le théâtre est rentré dans le cinéma et le cinéma est arrivé au théâtre. Et ce n'était pas comme ça avant. Et c'est ça qui est vraiment assez intéressant. Alors, je pense par exemple à Jeanne Candel, qui a été assez centrale autour de ça. Par exemple, ce qui s'est fait sur les larmes du crocodile, enfin, c'est formidable. C'est une autre manière de lier les arts. Et ça a été un élément central de ce projet. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu, moi.
Et ça vous venait d'où, ce goût d'un théâtre hybride?
Dans l'ordre.
Oui.
Non, par rapport à la première question que vous avez posée, c'est un peu irréel. C'est vrai, le rapport au temps qui passe comme ça, à la fois avec la sensation d'avoir vécu des choses très denses. Quand on redéplie un peu le temps, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir passé une large partie de notre vie artistique ici, ce qui est d'ailleurs pas faux, et en même temps un sentiment de brièveté, mais bon, qui est corrélatif à, je pense, toute expérience humaine, voilà, éphémère, théâtrale ou pas. Ensuite, je pense, c'est joli ce que vous disiez, vous dites que vous êtes arrivé avec un réseau, on a essayé de faire réseau surtout ici, parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres, en vérité, plein de gens qu'on a vraiment rencontrés ici. Je sais pas, au début Paul Scheer, Juliette Steiner, David Sechaud, voilà, plus tard Alice Laloy, qu'on connaissait pas vraiment quand on l'a associé. Et c'est comment ça a fait, au fur et à mesure, creuser, qui a été le plus intéressant pour nous. Si on a la sensation d'avoir, vous posiez la question, si on a la sensation d'avoir réussi dans nos missions, on a tout donné. En tout cas, hein,
c'est le sentiment qu'on a aussi.
Une énergie, on n'a pas eu une goutte d'énergie à donner en plus. Et oui, il y a eu des grandes joies. Des grandes joies de partage, des grandes joies de fréquentation de ce théâtre. C'est la première légitimité des théâtres, c'est qu'il y ait des publics qui représentent le monde comme il est, qui soient dans ces salles. Il y a encore beaucoup à faire, ça remet sur le métier sans arrêt. Mais il ne faut pas laisser dire qu'il n'y a pas de public pour les théâtres. Il ne faut pas le laisser dire, parce que c'est une contre-vérité.
Il y en a
à Colmar, il y a une appétence pour ça, réelle. Voilà. Et après, sur la dernière question que vous posiez, je pense qu'on s'est simplement mis un peu en chambre d'écho. C'est aussi des pratiques théâtrales qui sont arrivées un peu décloisonnées dans ces 15-20 dernières années, où de plus en plus, la question de l'art vivant global s'est posée sur les plateaux, et donc du dialogue entre des métiers différents d'art vivant, entre la musique, les pratiques circassiennes, Émilie, vers lesquelles tu es allée, mais on peut aussi, il y a des gens qui travaillent sur le clown, et c'est une manière effectivement un petit peu plus holistique d'envisager la recherche théâtrale, et qui crée beaucoup de surprises au plateau, beaucoup de zones différentes, de surfaces d'adhésion possibles avec des publics différents. Et nous, on a simplement essayé de se faire la chambre d'écho de ces nouvelles créations. Voilà. Vous avez cité Jeanne Candel, mais ça marche aussi très bien avec Alice Laloy, je trouve, qui mêlait aussi un nouvel art de la marionnette ou de l'objet.
Ou Mal de Quiette aussi, qui est, bien
exactement,
sûr.
Ouais. Après, c'est vrai que ces formes hybrides nous ont toujours intéressés, nous comme créateurs. Et c'est vrai que la création artistique comme lieu du non-homogène et de l'impur nous a toujours particulièrement intéressés.
Alors, ces formes hybrides aussi circulaient autour. C'est-à-dire, non seulement, alors évidemment, elles étaient centrales à la fois dans vos créations et dans les gens que vous avez amenés, mais elles ont circulé autour. Alors, je me demande... Ça, c'est tout nouveau, parce que du coup, le théâtre dans les villages, parce qu'il y a toute une imagerie du théâtre dans les villages, voire un théâtre plus intellectuel, etc., ce qui n'a pas été le cas la plupart du temps. Mais vous avez proposé cette itinérance dans les villages dès le début, avec d'ailleurs justement ce rapport au cinéma dès le début. Et donc, comment est-ce que ça a été vécu? Qu'est-ce que vous en tirez comme... je dirais pas comme conclusion, mais comme image qui vous reste.
Bon, c'était une partie importante de notre projet, et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on ne s'est pas forcé. On est convaincus l'un et l'autre de la pertinence de ce mouvement d'aller vers les publics, de la nécessité attachée à l'histoire de la décentralisation et attachée à l'incarner aussi d'une certaine manière. Donc c'est vrai que ce dispositif par les villages qui a été, et déjà qui s'appuyait sur quelque chose qui existait, il y avait la comédie vagabonde, nous on a effectivement pris le relais de cette aventure pour essayer de la développer, et ça a été bénéfique en tout point. et source pour le coup vraiment de joie, parce que au fur et à mesure le projet il s'est développé, parce qu'on a mis en avant la création, parce qu'on a fait des résidences in situ, c'est-à-dire qu'on est resté dans les villages avec les artistes pour avoir du temps c'est de ça. Présence pour travailler avec les associations, voilà, c'est ça, on crée là-bas. Et ensuite il y a eu effectivement le temps qui nous a accompagnés aussi par rapport à ces projets qui sont nés là-bas. Je prends l'exemple effectivement d'Une vie d'acteur qui a été le premier que j'ai mis en scène à Guémar et qui tourne encore la saison prochaine. Oui. Donc qui tourne depuis 8 saisons en réalité et qui continue de sillonner tout type de lieux éloignés ou non des centres urbains, des grands centres urbains. Donc c'est forcément quelque chose pour moi, pour nous, c'est quelque chose qui s'est imposé assez rapidement comme étant une démarche essentielle qui allait nous permettre de créer une relation singulière avec les publics, de créer des moments qui sont plus inattendus, qui sortent du cadre respecté, respectable de la représentation et de venir au théâtre, mais qui ont vraiment une importance vraiment folle. Et on l'a aussi développé, du coup, effectivement, sur d'autres types de petites formes qui ont été plus légères pendant le Covid, en allant dans les jardins, plus tard en allant dans les appartements, dans les médiathèques, dans les caves, enfin, dans les Vosges. Je pense qu'on a exploré là un certain nombre d'espaces. Puis c'est un terrain de jeu qui est génial parce qu'on peut le renouveler sans cesse, parce qu'on a aussi trouvé des artistes que ça a inspiré et qui avaient envie de faire cette démarche. Je pense à Youssouf, je pense à Pierre aussi, Pierre Maillet, pardon. Du coup, il y a eu vraiment quelque chose qui nous a accompagnés, qui nous a peut-être même surpris ou dépassés par rapport à l'ambition qu'on avait pour cet aspect-là du projet, effectivement accéléré par le Covid, et qui, du coup, nous a quand même permis aussi de donner une autre image, me semble-t-il, ou un autre visage à l'institution Comédie de Colmar, qui est un centre dramatique national, mais en rappelant aussi les fondamentaux de ces centres-là, qui sont aussi des lieux de décentralisation, donc qui ont vocation à les rencontrer le plus de gens possible.
Oui. Et j'imagine qu'il y a d'ailleurs une demande aussi dans les villages, enfin que à chaque fois vous avez même élargi le nombre de villages concernés, donc le nombre de personnes potentiellement impliquées, et donc ça a fait venir des gens aussi bien des villages du vignoble que de la plaine en fait.
Oui, et puis c'est un rendez-vous qui s'est fidélisé, ça c'est beau aussi d'avoir de la fidélité avec le public, avec les partenaires, c'est-à-dire que c'était un rendez-vous, donc on savait qu'on allait se retrouver l'année d'après, et puis effectivement il y a eu d'autres demandes, donc parfois certains villages ont pris la place d'autres parce qu'il fallait aussi faire profiter tout ça au plus de monde possible. Mais c'est vrai que c'est quand même une source de renouvellement, en fait, qui est assez inépuisable en réalité.
Avec cette ouverture au public, il y a eu une ouverture aussi par rapport aux jeunes comédiens. Donc, puisque c'est en particulier la jeune troupe qui a travaillé dans ce rapport au village. Et nous avons eu un grand plaisir de rencontrer ces divers jeunes comédiens qui ont déjà fait des écoles. Souvent, d'ailleurs, ils venaient d'écoles qui étaient proches de votre travail antérieur, c'est-à-dire de Saint-Étienne, mais pas seulement. Ça venait d'un peu partout. Et je trouve que ça a été formidable aussi parce que nous avons eu beaucoup de relations avec cette jeunesse-là.
En tout cas, je trouve que c'est joli par où vous prenez la chose. En fait, ce sont des petits dispositifs, dans le fond, tout ça. C'est des dispositifs de soins, de précision, l'itinérance, les courts-circuits, la jeune troupe. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas monté des choses babyloniennes à tous les coups ou cyclopéennes. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle avec Émilie les muscles profonds d'un projet de politique territoriale, de politique culturelle. Et c'est mis bout à bout tous ces petits dispositifs qui, comme ça, sur le papier, peut-être nos auditeurs vont se dire « Bon, qu'est-ce que ça veut dire ?» Trois jeunes comédiennes ou comédiens sur une année sur un CDN, ben en fait, c'est énorme. C'est énorme pour eux, c'est énorme pour le théâtre d'avoir plus d'artistes, en plus des milliers de mois dans le personnel permanent. C'est formidable pour le lien au public. Et c'est vrai ce que vous dites, Francis, on a constaté l'attachement qu'il y avait de plus en plus des publics par rapport à toutes ces jeunes troupes. Et c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant avec Émilie de dire, y a des comédiennes, des comédiens connus à la télévision, au cinéma, et puis il y en a des comédiennes et des comédiens très connus à Colmar, et c'est ceux de la jeune troupe, et qui eux rentrent dans le corps vraiment social, dans les bars, partout.
Et qui sont restés, qui veulent faire quelque chose ici. Ouais, c'est ça qui est pas mal.
Le fait qu'ils déménagent et qu'ils vivent ici, en tout cas pendant un an et demi, c'est fondateur dans le dispositif. Après, il y en a pas mal, effectivement, qui sont restés, notamment à Strasbourg. Mais c'est vrai que c'est un beau projet, cette jeune troupe, et on aura plaisir à passer ces projets-là aux directions qui vont nous suivre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une jeune troupe, s'ils le souhaitent. Il y aura toujours, enfin, on a bâti en dur, en fait, en vrai. Ce sont pas des trucs qui sont juste corrélés à la personnalité artistique d'Émilie ou de moi. Là, c'est sur la structure qu'on a vraiment travaillé.
Parce qu'on s'est vraiment rendu compte de ce que ça apportait.
Parce que c'est financé.
Et
on sent que c'est opératoire pour les financeurs. Hein. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on va pouvoir léguer et qui font maintenant partie de la comédie de Colmar, hein, qui partent pas avec Émilie et moi. C'est important de le dire.
Mmh. Oui, j'ai vraiment l'impression que, au fil du temps, puisqu'on aura vu plusieurs manières de procéder, plusieurs formes qui se sont installées, mais ça reste fortement. Je trouve que ce rapport aux jeunes troupes, c'est quelque chose qui, et si ça perdure, moi je trouve ça formidable.
Oui, et puis ça va de pair aussi avec un autre aspect de votre projet, c'est d'aller chercher peut-être ceux qui ne venaient pas, et en particulier donc un public familial, les collégiens, les lycéens venant déjà peut-être pas mal au théâtre, un peu plus peut-être, et d'avoir élargi et d'avoir proposé aussi des spectacles, soit dans vos créations, je pense au Château des Carpates par exemple, mais à d'autres formes encore, d'avoir proposé des choses qui soit vraiment familial. Et ça a créé un nouveau public.
Oui, c'était important pour nous aussi, c'est vrai, cette ouverture dont vous parlez, et puis se dire aussi que pour sortir, parce qu'évidemment c'est la question de la jeunesse aussi, hein, ce qui est quand même une question très importante et sur laquelle on a eu la sensation qu'il fallait aussi être présent et on en avait le désir, mais c'est aussi la question des familles. Et ça, c'était important aussi de se dire, bah là, le Château des Carpates, typiquement, c'était aussi faire un projet où on se dit, on peut aller au théâtre, on peut partager en famille des moments de spectacle vivant, et ça, on y a effectivement été très attentif. Et de la même manière, j'ai envie de dire, alors bien sûr en création, ce qui aussi était une nouveauté pour ici, hein, la création pour la jeunesse et pour les familles, et puis aussi en se disant comment est-ce qu'on investit tous ces autres espaces, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'expérience d'aller au spectacle était aussi un moment de convivialité, qui est aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, je crois, à faire en sorte, bah voilà, la convivialité du hall, les partenariats qu'on a pu faire avec plein de petits événements qui sont venus s'agréger autour,
oui,
effectivement, des apéros, voilà,
oui.
les pique-niques, le travail avec forcément les chanteurs de l'opéra qui sont présents aussi, qui nous ont apporté aussi une belle dynamique. Et puis tout ce qu'on a réussi à créer pour un tout petit peu étonner. Voilà, je crois qu'on a cherché à faire ça aussi, à étonner et en même temps à faire en sorte que les gens aient suffisamment confiance en ce projet pour qu'ils aient envie d'être étonnés et qu'ils se laissent surprendre en quelque sorte.
La particularité de ces directions, c'est que vous êtes à la fois des créateurs et des gens qui doivent gérer. Ça n'a pas été rien, sans doute. Je pose quand même la question, qu'est-ce que c'est que de gérer en même temps tant d'argent d'ailleurs aussi, tant de gens, tant de projets, et en même temps de créer? On passera à la création après. Je pense qu'avec le temps qui nous reste, on a plein de choses à dire, donc partons de là. Repartons de là. Qu'est-ce que c'est que de faire ces deux choses en même temps?
Dans Minetti de Thomas Bernhard, Minetti dit devenir directeur de théâtre, c'est un projet suicidaire.
D'accord.
Donc, voilà, être dirigé et créé, quoi.
C'est marrant, on en parlait hier lors d'un autre interview. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça, c'est deux métiers en un. Voilà. Et deux métiers, pareil, qui se nourrissent l'un l'autre, qui peuvent être plus ou moins connexes, mais qui ont quand même des attendus, des exigences qui sont complètement... Voilà. Et l'un rend possible l'autre et inversement, et l'un ne doit jamais décourager l'autre et inversement. Donc c'est là, c'est vrai que c'est vraiment un temps de tempête, un gros temps en tout cas sur le théâtre public. Donc il faut naviguer un peu par grosse mer. Pour autant, on a toujours eu le goût. Enfin, on était comédien à la base, en fait, hein, se souvenir quand même de notre formation. Puis directeur de collectif, un membre de collectif, puis de compagnie, metteur en scène. On a toujours eu le goût de comprendre un métier par toutes ses portes, d'en faire le tour comme d'une sculpture, comme d'une ronde bosse. Ça reste très épanouissant. Et surtout, j'ai l'habitude de dire qu'en tout cas, à ceux qui nous demandent de l'extérieur, mais c'est pas trop pénible, les ressources humaines, la compta analytique, les rapports politiques, les pressions ou pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un endroit d'impuissance. C'est-à-dire qu'on peut quand même rendre possible des choses qui ne l'auraient pas été si on n'avait pas décidé. On peut aider d'autres que soi. Je vous jure que c'est pas de l'angélisme ou un discours de bisounours au bobo. Ça fait un bien fou dans la vie de pouvoir se mettre au service du projet des autres, de un peu se dénombriliser, d'arrêter de se touiller, de, voilà, d'aller, on peut s'épanouir quand même artistiquement dans ces maisons.
C'est ça.
Il faut le dire. Et on peut être, moi, c'est ça peut-être le plus important, on peut être dans un contact non conflictuel avec des gens pas d'accord avec nous. D'accord. C'est-à-dire qu'on est au contact quotidiennement, pas voilà, politiquement parfois, mais à d'autres endroits, un endroit d'exposition où des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on propose ou qui croient peu au service public de l'art ou de la culture ou quoi, ne se privent pas pour nous le dire. Et nous, on a des armes pour essayer concrètement de dire bah, si, regardez, on n'est pas élitiste, si, on peut aller dans les campagnes, si, on s'adresse pas toujours
voilà,
aux 3 Emma Bovary du coin, mais c'est un public qui est plus large. Donc moi, en tout cas, c'est là que je trouve mon miel personnel. C'est honnêtement, espérance de vie, je pense, divisée par, par un et demi.
Il faudrait
faire une
d'énergie.
Étude là-dessus. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'une forme de foi, enfin, j'ai envie de le dire, parce que des fois, il y a un côté donquichotesque et sisyphien. Enfin, je veux dire, de toujours reprendre sans arrêt, remettre sur le métier.
Mais c'est déjà le cas pour l'artiste d'avoir à chaque fois recréé, alors en plus d'avoir à mener l'ensemble de.
Oui, mais là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant parfois les petits dispositifs, c'est aussi dans une société qui valorise volontiers le méga événementiel, les choses extrêmement brillantes ou quoi, il est de plus en plus difficile de valoriser les choses de sens et les muscles profonds de cohésion, de partage. Donc là, bah, on est vraiment à l'œuvre, peu médiatisée, sans vous faire insulte, mais peu vue à l'endroit réel où on travaille et peu lue à l'endroit réel où on écrit. Mais pour autant, c'est un endroit où on peut être quand même extrêmement actif et pas dans un sentiment d'impuissance.
Et ben c'est formidable parce que vous êtes à deux en plus.
Et on est à deux. Et moi, je voulais juste rajouter que effectivement, cette mission d'être artiste et directeur/directrice, elle peut paraître complexe. Elle l'est effectivement dans la gestion, dans la manière dont on articule ces deux aspects. Effectivement, le fait d'être deux pour nous, ça a été une vraie force aussi, une vraie chance parce qu'on pouvait jouer aussi de cette alternance de fonctions et de temps passé aux choses. Et puis, je dirais que c'est aussi une chose qui peut enrichir un artiste que de se poser aussi ces questions de service public et de se poser aussi ces questions d'adresse et de se poser aussi ces questions de territoire. Et qu'en fait, ces missions-là, elles sont belles, elles sont fortes, que moi, j'y crois et que je pense que ça a influé aussi quelque part dans mon travail artistique, le fait d'avoir cette responsabilité, mais positivement, ça l'a influé positivement. Et puis, encore une fois, quand on parlait tout à l'heure des spectacles pour l'enfance ou la jeunesse, quelque part, quand on se dit, bah, des fois, on va être responsable d'une première fois aussi, et pourvu que cette première fois, elle soit qualitative, pourvu que cette première fois, elle soit belle et qu'elle donne envie pour la suite, bah voilà, c'est quand même des espaces qui sont quand même très rares et quand même assez précieux. Donc ça aussi, on en a conscience d'une certaine manière.
Parce que un des exemples, par exemple, c'est le lien que vous avez créé avec Equinote, le fait d'avoir réussi à faire que le chapiteau soit construit sur ce parking derrière le théâtre et d'avoir ouvert à ce moment-là aussi à d'autres publics peut-être qui venaient pas.
Oui.
Et aussi d'avoir négocié avec la municipalité le fait que ce soit possible.
Et puis de faire des choses qu'on n'aurait pas faites. Enfin, en réalité, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas faites ou qu'on n'aurait pas croisées probablement dans notre parcours d'artiste si on n'avait pas eu effectivement cette feuille de route qui nous engageait à forcément réfléchir, nous réinventer, aller plus loin, proposer des choses différentes et des formats qui étaient très variés parce qu'en effet le chapiteau c'était une expérience qui était absolument géniale.
C'est une formidable publicité pour l'artiste et directeur parce qu'on connaît tellement le directeur d'un côté puis l'artiste de l'autre et là que l'artiste... Du coup vos propres créations ont eu un lien avec aussi le rapport global aux gens que vous dirigez par ailleurs. Quant à ces créations-là, je trouve que vous avez fait de très belles choses, enfin, franchement, qui nous sont restées, vraiment. C'est-à-dire, il y a eu des moments très beaux, en particulier, par exemple, je pense aux Coltès ou je pense aux femmes qui nagent, en relation aussi, du coup, avec des écrivains. Et faut en parler quand même parce que ce sont aussi des gens qui partagent l'œuvre qui se fait. Comment vous les avez choisis au départ? Vous étiez venu avec quelqu'un avec qui vous travailliez déjà, et puis il y a eu d'autres choix.
Oui, je me rappellerai toujours de Christine quand on est arrivé qui m'a dit. Non, François Bégodeau, comme artiste associé à Colmar, je suis pas sûr que ça va prendre comme auteur associé.
Ça a très bien pris en tous les cas. Moi, je le lis depuis que je l'ai.
La la question, c'était, c'est vrai que vous parlez beaucoup de cinéma ou de musique. Le fondement premier, c'est la littérature.
Oui, voilà. Elle était bien au cœur de votre programmation.
En vrai, et sans qu'on en fasse forcément, pareil, une publicité dingue ou quoi. Mais encore une fois, il y a ce sur quoi on communique, puis il y a ce qu'on fait. Et c'est pas toujours la même chose. Mais bien sûr, la littérature reste, enfin, les littératures restent complètement au centre de notre geste. De notre geste de création, et puis ça fait partie de nos, ça fait partie complètement de nos vies. Après, effectivement, on va avoir des rapports différents, Émilie et moi, à ça. C'est vrai que, moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie urgence, enfin, une vraie nécessité aujourd'hui à apporter des textes dramatiques, voilà, structurés, musclés, poétiques, politiques. Et j'ai l'impression que c'est le, presque le grand perdant de la bourse du théâtre en ce moment, le texte. Et on voit comment ça s'effiloche rapidement. Je veux dire, enfin, récemment, je suis allé voir un spectacle magnifique à la Comédie Française sur un texte d'Éric Vuillard. Il y avait une dame à côté de moi qui avait l'air d'être abonnée à la Comédie Française et qui, au bout de 5 minutes, dit à son mari, mais qu'est-ce qu'il y a comme texte? Tu te dis, si à la Comédie Française, on se dit, qu'est-ce qu'il y a au bout de 5 minutes d'un magnifique spectacle de Jean Bellorini qui sait rien mieux que passer des textes en clarté et tout, qu'elle était déjà à saturation, enfin voilà. Donc
Le Onegin que vous aviez programmé Bellorini, enfin de Bellorini, c'était un des grands moments extraordinaires.
Très grand moment.
Très grand moment, par exemple.
Mais il faut, voilà, Émilie me disait récemment, enfin ce que tu disais hier, sur aussi des jeunes qui préfèrent écouter des livres que de les lire. Enfin, il y a un rapport à l'écrit, un rapport qui existe en beaucoup. Ma réponse a été un peu idiote, et, enfin un peu innocente. Et je me suis dit, t'as pas tant de spectacles encore à faire que ça, au rythme en plus des créations aujourd'hui. C'est vrai que la question de ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre m'a traversé. Avec La Nuit juste avant les forêts, avec Le Minetti de Bernard, avec Phèdre.
Avec Phèdre.
D'aller voir ce qui faisait que spécifiquement un texte passait les décennies ou les siècles sans prendre une ride. Au contraire, il y a là un mystère qui m'intéressait beaucoup d'aller voir. Avec ce que vous savez de mon goût sur les trois littératures-là sont finalement assez simples en termes de champ lexical, dire Coltès, Thomas Bernhard et Racine ne sont pas Gracq, Claude Simon, enfin vous voyez. Et pour autant, il y a un grand art de la phrase, un grand art de la pensée à l'intérieur de la syntaxe qui me passionne.
Et moi, ce qui m'a
Compléter sur la question des littératures, parce que c'est ça que tu énonces, je crois qu'il y avait quand même aussi envie de cette altérité avec l'auteur vivant, avec l'autrice, qui est quand même une chance inouïe qu'on a de pouvoir dialoguer avec eux, composer quelque chose. Des Femmes qui nagent, c'est vraiment une composition sur mesure, d'un échange entre une autrice et moi, et une thématique sur laquelle on avait envie de se mettre au travail, et qui ont donné lieu à des formes originales, donc qui ont vraiment vu le jour ici, et qui ensuite, je l'espère, continueront de vivre.
L'autrice ayant elle-même écrit un roman tout en étant là, et je trouvais ça assez extraordinaire. Ce rapport à la littérature m'a énormément touché dans tout ce que vous avez fait, parce que on dit la musique, on dit le cinéma, etc., mais la littérature était centrale. Je me rappellerai toujours la discussion entre Bégodeau
et
Mathieu, qui a été incroyable, mais absolument incroyable.
Dans le cadre du Festival du Livre.
Et à Colmar. Et c'était vraiment un moment formidable, qui lançait d'ailleurs cette question de la littérature.
Ça s'appelait François Bégodeau, pourquoi n'avez-vous pas le succès que vous méritez?
C'était un très grand moment.
Et puis c'est vrai qu'après on l'a fait voyager aussi cette littérature, donc il y a effectivement les chefs-d'œuvre dont tu parles, Mathieu, mais on a aussi exploré d'autres choses, effectivement d'autres formes, l'adaptation de romans, on a été explorer tout ça d'une manière toujours assez joyeuse, et effectivement en proposant des choses qui étaient peut-être un peu différentes, en tout cas dans les formes.
Et la présence des écrivains dans les lieux aussi.
Alors il est temps donc non pas de vous dire au revoir, mais de vous souhaiter, mais vraiment vraiment, un succès phénoménal après celui de Colmar, un très grand succès à Toulouse, et que vous continuiez à peu près sur ces projets-là.
Et moi, je voudrais juste vous remercier infiniment de nous avoir accueillis, écoutés, accompagnés pendant toutes ces années. Et puis ces rendez-vous étaient précieux, attendus, et puis ça va nous manquer. Alors merci pour tout.
Et merci à notre équipe à la Comédie de Colmar, sans laquelle on n'aurait rien pu faire et qui est formidable.
Merci à vous, en tout cas. Et vive le théâtre.
Théâtre. Bring some of your love home to me, but mine.